ce qui, une fois de plus, met en évidence la place centrale de la sainteté de Dieu dans les Écritures. Dieu a tenu à ce que les séraphins l'adorent en répétant de cette manière, pour bien montrer que la sainteté de Dieu, ou le saint quand il s'agit de Dieu, c'est absolument tout, c'est là l'essentiel. Dieu est entièrement, absolument, parfaitement saint, sa transcendance est absolue, sa pureté morale est absolue, sa séparation d'avec le péché est absolue, sa gloire, sa majesté et sa grandeur sont absolues. Voilà ce que les séraphins proclament dans le sanctuaire. Un écrivain souligne ceci: dans tous les livres que j'ai lus sur la sainteté de Dieu, j'ai constaté que les auteurs ont dû chercher les termes adéquats pour exprimer cette réalité. Les mots « entièrement », « infiniment », « absolu », « insondable », « suprême », « ardent », « exalté », « solidaire », « solitaire », « unique », « sans pareil » ont valeur de superlatif. Même en épuisant toutes les ressources de notre langage, nous ne pouvons décrire Dieu, il est réellement insondable. Voilà une des proclamations d'Ésaïe chapitre 6. Quand on ne sait plus comment dire ce qu'est Dieu, chez les Hébreux, on le répète. On répète le mot fondamental qui est expliqué ailleurs tout au long des Écritures. Et alors, vous arrivez à ce verset 5. Qui me rappelle 1 Samuel 6, verset 20, précisément dans le cadre de tout ce qui s'est passé à Silo, le problème avec les Philistins, hein, n'est-ce pas? 1 Samuel 6, 20 dit, il pose la question: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Qui peut subsister? Et là, nous avons affaire à un jeune prophète, à un néophyte dans le domaine de la prophétie, qui est décomposé. Et il est d'autant plus décomposé que, avant le chapitre 6, bien entendu, cela va de soi, il y a le chapitre 5. Et que, dans le chapitre 5, le jeune prophète, Ésaïe, s'est déchaîné. Il s'est déchaîné de la part de Dieu pour exprimer la colère de Dieu à l'endroit d'Israël. Et dans ce déchaînement de colère, ce que j'ai intitulé en tête à partir du verset 8 du chapitre 5, « Les raisins de la colère », il utilise un mot qui va revenir 6 fois. C'est le mot malheur. Et nous pourrions très bien envisager une étude qui prendrait verset après verset les versets 8 et suivants du chapitre 5 pour voir comment il s'applique à notre société d'aujourd'hui. Alors j'ai simplement résumé: malheur aux accapareurs et spéculateurs, hein, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Mes amis, s'il y a un verset qui est d'actualité, c'est bien celui-ci. Hein. Quand on voit tous ces trusts, tous ces arrangements, cette globalisation, cette mondialisation, où finalement tout finit par se trouver entre les mains de d'abord 3, 2, puis une personne, une petite équipe, on est en plein dans le sujet. Et vous voyez que le problème n'est pas nouveau, il existait déjà à l'échelle d'Israël. Et vous voyez ce que Dieu en pense. Malheur aux accapareurs, aux spéculateurs, un peu plus loin, malheur aux hédonistes, c'est-à-dire ceux qui sont centrés simplement sur le domaine des loisirs, là encore mes amis, l'hédonisme aujourd'hui, hein. Les loisirs, les loisirs, les loisirs, du pain et des jeux, hein. Il n'y a pas que dans l'Empire romain, panem et circenses, non, 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 du pain et des jeux, nous en voulons, du matin au soir et du soir au matin, moins on travaille, mieux on se porte. C'est dans les Écritures. Hédoniste et épicurien, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Un peu plus loin, les incrédules libertins et railleurs. Un peu plus loin, les pervertis orgueilleux, arrogants. Un peu plus loin encore, les juges iniques corrompus, mais mes amis. Est-ce que ce n'est pas notre société ? Malheur, 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 malheur. 6 fois. 6 fois. 2 fois 3. Chiffre de l'homme. Et puis là, au chapitre 6, malheur à moi. Malheur à moi. Le 7e de ces malheurs. Malheur à moi. Le 7e malheur est pour lui. Ésaïe est absolument bouleversé devant cette manifestation sensible dont il ne voit que l'extérieur. Les pans de la robe remplissent le lieu saint, les séraphins, mais simplement déjà le peu qu'il voit subit à le décomposer sur place, n'est-ce pas ? Et il est tellement bouleversé que tout son ministère en sera marqué. L'impression est profonde et il va devenir, à partir de là, tout particulièrement, le prophète de la sainteté de Dieu. Je ne vous cache pas que quand j'étais étudiant en théologie, le livre du prophète Ésaïe était un des livres que j'aimais le moins. Parce que c'est un livre volumineux dans les Écritures, qui traite de beaucoup de choses concernant les nations, et j'avais peur aux examens d'être interrogé sur le prophète Ésaïe. Je bénis Dieu d'être allé plus loin depuis. Parce que c'est extraordinaire, ce prophète Ésaïe, prophète de la sainteté de Dieu. Savez-vous que dans le prophète Ésaïe, Dieu est appelé par Ésaïe, sur l'ordre de Dieu qu'il inspire, 30 fois le saint. 30 fois. 30 fois le saint, ce qui est une très très forte dominante pour les Écritures dans la vie d'un seul serviteur. Ésaïe 57, 15 dit « Son nom est saint, il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Quelqu'un a écrit « Plus on se rapproche du ciel, plus on est conscient de l'enfer. » Dit d'une autre manière, les plus grands saints sont les plus grands pécheurs. Bien sûr, il s'agit de bien comprendre cette phrase. Ça ne veut bien entendu pas dire que les plus grands saints sont ceux qui se délectent dans le péché. Mais ce sont les plus grands pécheurs dans le sens que ce sont ceux qui ont le plus de sensibilité et de connaissance de leur propre nature. Et ce sont les plus grands saints parce que ce sont ceux qui vivent précisément le plus près de Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre près de Dieu sans expérimenter cette dimension-là. Tous les serviteurs dans les Écritures qui ont expérimenté à un moment donné ce qu'Ésaïe a expérimenté ont été touchés à jamais et ont pris conscience de leur propre état de leur vulnérabilité, de leur fragilité, de la manière dont les choses les plus nobles, les dimensions les plus spirituelles dans leur vie étaient polluées par le péché. Ça, c'est une des choses qu'on découvre après sa nouvelle naissance. Dans les premiers temps de sa nouvelle naissance, et là, ça peut durer parfois longtemps, on vit encore dans l'illusion qu'on est quelqu'un de bien. Et puis, peu à peu, on va de désillusion en désillusion sur soi-même. Parce qu'après les temps de l'exaltation viennent ceux du désert, où on fait connaissance avec ses incapacités et avec son besoin absolu de dépendance de Dieu. Un jeune pasteur dit un jour à un prédicateur plus âgé qu'il connaissait, il dit qu'il connaissait quelqu'un qui prétendait pouvoir passer plusieurs jours sans pécher consciemment. Il demanda ensuite à ceux qui avaient plus d'expérience si l'évaluation que cet homme avait de lui-même était correcte. Les yeux brillants d'une intensité qui révélait une profonde conviction, l'autre répondit « Non, monsieur. Celui qui a vu l'exquise sainteté de Dieu ne parlerait certainement pas de cette manière. » Et je pense que c'est l'expérience qu'a vécue en particulier, entre autres, cet homme de Dieu qu'on a appelé le père des missions modernes, William Carey. William Carey qui a merveilleusement œuvré pour le Seigneur, traducteur de la Bible en totalité ou en partie en plus de 40 langues et dialectes. C'est de lui que viennent ces paroles bien connues. « Attends-toi à de grandes choses de la part de Dieu et accomplis de grandes choses pour lui. » Oh, il a aussi connu bien des souffrances, 6 ou 7 années avant qu'il voie la première nouvelle naissance et puis l'imprimerie et toute une partie de ses traductions a brûlé, ce qui a alors soulevé un intérêt extraordinaire en Grande-Bretagne où les chrétiens jusque-là étaient tout à fait restés fermés à son activité spirituelle parce qu'on n'avait pas la vision des missions. Et c'est là que ça a changé. Et âgé, le jour de son 70e anniversaire, William Carey écrivit à son fils les mots suivants. Écoutez. Âgé de 70 ans aujourd'hui, je suis comme un monument qui célèbre la miséricorde et la bonté de Dieu. Car j'ai beau repasser ma vie devant mes yeux, je trouve beaucoup, oui vraiment beaucoup de choses pour lesquelles je devrais m'humilier dans la poussière. Mes péchés directs et positifs sont innombrables. J'ai fait preuve d'une grande négligence dans l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas défendu sa cause, ni recherché sa gloire et son honneur comme j'aurais dû. Malgré tout cela, j'ai été épargné jusqu'à ce jour. Je suis encore actif dans le champ missionnaire et j'ai cette ferme assurance que c'est par Christ que j'ai obtenu toutes les faveurs divines. Un homme de Dieu connu pour l'intensité de sa consécration jusqu'à la fin de ses jours et que Dieu a préparé magnifiquement dans son échoppe de cordonnier, où il avait fabriqué lui-même une carte du monde sur laquelle il inscrivait ici et là tout ce qu'il apprenait à son époque, n'est-ce pas, sur la situation de ces pays pour pouvoir prier jusqu'à ce que finalement Dieu l'appelle et l'envoie. Pas d'impeccabilité. Et c'est là parfois qu'on a quand même de la peine à concevoir toute cette question de la seconde bénédiction qui existe dans certaines tendances de l'Église de Jésus-Christ. Seconde bénédiction qui, après la nouvelle naissance, à un moment donné, fait que désormais on ne péchera plus. J'ai rencontré un serviteur de Dieu avec lequel j'ai pris un repas qui avait ses convictions. Et tout récemment, nous étions invités dans une église qui a été gravement divisée à un moment donné parce que le responsable de cette église avait pris cette tendance-là. Ronald Dunn, celui qui nous a laissé ce livre remarquable « Quand le ciel est silencieux », ce pasteur, serviteur de Dieu américain qui a perdu son fils suicidé pendant son ministère, qui a fait 10 années de dépression profonde, etc., qui est auprès du Seigneur maintenant depuis relativement peu de temps, et nous avons 3 livres traduits en français. Les 2 premiers sont excellents, le 3e est problématique. Mais enfin. Et Ronald Dunn a écrit ceci justement dans le 3e. « Quand j'étais adolescent, mon pasteur nous rapporta cet incident. Il marchait dans la rue principale de notre ville et rencontra un autre pasteur. Son fils de 8 ans l'accompagnait. Ils conversèrent et l'autre pasteur lui dit « Vous savez, frère, j'ai reçu la seconde bénédiction. La vieille nature pécheresse a été éradiquée, je ne pêche plus, plus depuis 3 ans désormais. » Mais un petit garçon reste un petit garçon. Et son fils âgé de 8 ans qui était là, de lever les yeux vers mon pasteur en s'écriant « Surtout ne le croyez pas !» Mes bien-aimés, c'est l'heure de le redire dans le cadre de la fin de cette étude pour cette année. Nous sommes heureusement, béni soit Dieu, délivrés de la condamnation du péché. Nous sommes heureusement, béni soit Dieu, délivrés de la puissance du péché. Romains chapitre 6 à 8 est tellement extraordinaire à cet égard. Mais nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché. Nous attendons le salut dans sa plénitude absolue. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés, l'espérance qui n'est pas espoir, qui est certitude, mais espérance parce que le salut dans sa totalité, dans sa perfection absolue, il est pour demain. Lorsque, débarrassé enfin de ce corps et de tous les soucis de la vieille nature, nous aurons un corps nouveau et nous serons pour l'éternité avec notre bien-aimé Sauveur. En attendant, notre vieille nature, ce que la Bible appelle par exemple la chair, alors la chair a plusieurs sens, il y a 5 sens possibles, mais le sens essentiel, c'est celui qui nous intéresse, et certains d'entre vous savent que j'aime utiliser cette expression de la maréchale Booth, l'hippopotame moi. En hébreu, le mot chair, c'est bazar. Et c'est vrai que la chair, dans ce sens, est un drôle de bazar. Alors, c'est vrai que la vieille nature a été crucifiée, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous devons la maintenir sur la croix, par la puissance du Saint-Esprit, par tous les moyens de grâce que Dieu nous donne. Mais et vous savez ce qui se passe, hein? La vieille nature, je me souviens en 1995, nous étions au Liban et en Syrie, et au Liban, nous nous promenions dans les montagnes du Liban, à un moment donné, tout près du lieu où nous logions. Et subitement, je me retourne sur le chemin pour regarder le paysage, et qu'est-ce que je vois à très peu de distance de moi? Un poulet qui courait sans tête. J'avais deviné le geste, et je pense que c'est à cause de cela que je me suis retourné. Le geste de celui qui venait de lui couper la tête. Mais le poulet faisait ce que tous les poulets font quand on leur coupe la tête. Ils sont encore animés d'une vie qui s'en va très vite, les nerfs fonctionnent encore, alors on les voit, d'abord c'est à peu près cohérent, puis ça finit en queue de poisson. Mais c'est ça notre drame encore ici-bas. Un disciple de Jésus-Christ en bonne santé ne se complaît pas dans le péché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec le péché. Il est dans le combat. Et si l'apôtre Paul s'appelait lui le premier des pécheurs, c'est précisément parce que son intimité avec Dieu le rendait plus sensible dans la lumière de Dieu, à l'existence dans sa propre vie de ses zones d'ombre. Et finalement, la nécessité de l'écharde dans la chair, qui ne l'a pas quittée. Parce que Dieu connaissait pour l'apôtre Paul, comme pour chacun de nous, la nécessité de l'écharde dans la chair à cause de notre propension à l'orgueil, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre. Et je termine, Ésaïe 6, versets 6 et 7, parce que c'est tellement beau. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit : ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous avons évoqué Osée en fin de matinée. Osée 11, 8, 9, écoutez ce beau passage. « Que ferai-je de toi, Éphraïm ?» Le nom donné au royaume du Nord, essentiellement dans le livre d'Osée, parce qu'Éphraïm en était la tribu principale, prestigieuse. Donc c'est la partie prise pour le tout. Mais Éphraïm, qui paraît, je crois, une quarantaine de fois à peu près dans le livre d'Osée, qui veut dire fécond, fécondité, pleine de fruits. Parce que Osée, de la part de Dieu, va souligner la stérilité. Toi qui t'appelles Éphraïm, qui devrait être pleine de fruits, qui devrait être fécond, tu es stérile à cause de ton péché. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Ce sont les villes du bassin de Sodome et Gomorrhe et qui ont disparu en même temps que ces deux grandes cités. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions, toutes mes entrailles sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Et là où on s'attendrait, je suis le Saint, on voit le feu, on voit la colère, on voit le Dieu vengeur, le feu dévorant. Non, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Une fois de plus, la grâce qui fait partie de la sainteté de Dieu. Et bien entendu, en filigrane, derrière ces versets 8 et 9, nous voyons qui ? Jésus. C'est une annonce de Jésus. Si la colère nous est épargnée, c'est à cause de Jésus. Vous avez l'autre texte d'Ésaïe 57,15, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais, je suis avec l'opprimé, l'homme contrit qui est humilié dans son esprit. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Mes amis, le Dieu Saint, il se présente comme le Dieu Saint, et après avoir proclamé sa sainteté, il dit mais, je ne suis pas un Dieu apathique, je ne suis pas un Dieu froid. Un Dieu insensible, comme les divinités païennes, n'est-ce pas ? Mon cœur vibre. J'aime ce peuple et je l'aime d'un amour, le recette de Dieu, d'un amour constant, d'un amour qui ne fluctue pas au gré de ses caprices. Je t'aime d'un amour éternel, dira le prophète Jérémie de la part de Dieu. N'est-ce pas, c'est pour cela que je te conserve mon chesed, ma bonté. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne saurait chanceler, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Toujours dans l'ancienne alliance se profile le sacrifice de Jésus. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, 1 Pierre 1, 22. c'est la régénération. Et la régénération se profile déjà dans l'Ancienne Alliance. Et je termine simplement, cela me touche beaucoup, en disant ceci, c'est que Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, est appelé généralement, pratiquement dans tous les cas, sauf un, le Saint d'Israël. Mais il est aussi appelé une fois le Saint, j'ose à peine le dire, de Jacob. Ésaïe 29, verset 23. Sur 30 fois, une fois, le Saint de Jacob. Les autres fois, le Saint d'Israël. Alors le Saint de Jacob, ça fait quand même bizarre. Hein? Après tout ce que nous avons dit sur le Dieu Saint, le Saint, voire accolé à ce qui est l'essence même de Dieu, Israël, mais encore mieux, Jacob, qui avait un doctorat en calcul mental, un procédurier, menteur jusqu'à la moelle, tricheur, assoiffé de la bénédiction de Dieu, ça c'était ce qui a fait que Dieu a pu le transformer. Mais vous rendez compte, le Dieu de Jacob, le Saint de Jacob. Je suis heureux de terminer par là cet après-midi et cette série, parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher de changer le texte et de dire que Dieu est le Saint de Maurice Necker. Dieu est le Saint de Maurice Necker. Le Dieu séparé. Le Dieu transcendant. Le Dieu unique. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit dans cette journée. Ce Dieu-là me sauve, m'unit à lui et me transforme. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Dans ce prophète Ésaïe, chaque fois que vous voyez le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, mettez en dessous votre nom. Comment Dieu a accepté dans l'amour de sa sainteté, n'est-ce pas, à cause de la croix, de nous unir étroitement à lui et de nous transformer pour qu'il y ait une ressemblance entre nous et lui. Il n'est pas n'importe quel père et quel Dieu, il ne se conduit pas n'importe comment. Nous nous arrêtons là et nous laissons à Dieu la suite de cette étude. Mes amis, il est rare que j'arrive au bout d'une étude. Mais parce que la Bible est comme ça, c'est le livre de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons prier. Merci, merci. Nous ne savons comment te le dire. Nous nous réjouissons de ce que, là-haut dans ta gloire, nous aurons le langage adéquat pour exprimer sans limitation et sans retenue notre adoration. Et ce sera merveilleux, Seigneur, de ne pas avoir de limite du tout dans notre communication avec toi. Seigneur, merci pour ce que nous avons pu toucher encore de loin, de la beauté, de la richesse insondable de ta personne, toi, le Dieu trois fois saint. Et nous te bénissons ensemble et individuellement pour la conclusion que tu nous as laissée, puisque non seulement tu as été le Saint d'Israël, le Saint de Jacob, et à une période où, hélas, Israël était si loin de toi, Seigneur, merci. Merci d'avoir accepté dans ta grâce d'accoler mon nom et mon histoire à côté de l'essence même de ta personne. Le Saint de Maurice, le saint de Paul, le saint de Françoise, le saint d'Alfred, de chacun d'entre nous. Seigneur, lorsque nous réalisons tant soit peu ce que cela signifie, nous sommes émus, bouleversés, et tellement reconnaissants de ce que, après que nous ayons prononcé ce malheur à moi, tu nous appelles. Tu nous appelles à te servir. Me voici, voulons-nous te répondre avec ton serviteur, le prophète Ésaïe. Me voici, envoie-moi. C'est dans le nom du Seigneur Jésus. Et à cause de ce ministère permanent du Saint-Esprit qui oriente nos regards, notre pensée vers toi et vers ton Fils bien-aimé, c'est au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit que nous venons de te prier.